France Inter.
Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. À la une ce matin, la Nouvelle-Calédonie, après une semaine d'émeutes, toujours pas de retour au calme. Le GIGN, on va le voir, est massivement déployé. La mort du président iranien Ebrahim Raïsi, annoncée par des médias locaux. Son hélicoptère s'est écrasé hier dans le nord-ouest du pays. La une, c'est aussi cette grève demain des cheminots d'Île-de-France. Pour leurs primes olympiques, ils veulent autant qu'à la RATP. Ce nouveau médicament Sanofi contre la bronchite chronique obstructive, la BPCO. Et puis Brest, en Ligue des Champions, s'est fait fin de saison en apothéose pour les Bretons du football.
France Inter.
Un conseil de défense à l'Élysée, le troisième, convoqué par Emmanuel Macron à 18h30 ce soir, pour agir en Nouvelle-Calédonie et tenter d'obtenir un retour au calme. Ça n'est toujours pas le cas pour l'instant. Les pillages se poursuivent et la route entre Nouméa et l'aéroport est encore loin d'être dégagée et praticable, malgré la mobilisation de 600 gendarmes hier qui ont neutralisé 76 barrages, appuyés par une centaine de membres du GIGN. Emmanuel Leclerc, jamais les gendarmes d'élite n'avaient été aussi présent sur le terrain calédonien depuis les années 80.
Le premier groupe d'intervention qui s'est déployé dès le départ en Nouvelle-Calédonie, c'est l'antenne régionale du GIGN. Une vingtaine d'hommes affectés à la protection de plusieurs élus ou représentants de l'État. Ensuite, la deuxième mission, c'est de protéger des brigades de gendarmerie pour éviter des attaques et que des armes lourdes ne soient volées, comme ce fut le cas en 1988, justement avant l'épisode tragique de la grotte d'Ouvéa. Et les premiers renforts arrivés de métropole en milieu de semaine dernière ont aussitôt appuyé leurs collègues sur ces deux missions principales, dit un responsable de l'état-major du GIGN. Les 50 autres agents qui sont arrivés en fin de semaine dernière ont participé à l'opération du week-end pour dégager l'accès à l'aéroport avec une sécurisation des commerces considérés comme stratégiques, stations d'essence et pharmacies. Les forces spéciales de la gendarmerie font aussi du renseignement, peuvent faire décoller des petits drones et sont surtout censés intervenir s'il y a des tireurs embusqués le long des axes routiers majeurs autour de Nouméa.
Attendent d'un retour au calme. Les habitants de l'agglomération restent sur le qui-vive. Ils anticipent des lendemains difficiles. Thibault habite la vallée des Colons, l'un des quartiers de Nouméa.
Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec les renforts, ça va. On a l'espoir, mais aussi cette impression que ça va se calmer. En tout cas, nous, on maintient la fermeture des quartiers pour que nos enfants ils puissent circuler librement et en sécurité. Et on a conscience que des fois que le retour au calme sera arrivé, qu'on aura dégagé nos rues et reprendre entre guillemets une activité normale, il y aura encore pendant quelques semaines des difficultés d'approvisionnement, des difficultés pour aller se nourrir, et puis surtout des difficultés économiques pour les nombreuses familles dont les emplois ont été complètement détruits suite aux incendies.
Voilà, un habitant de Nouméa, joint par Laurent Kramer. Ce matin, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie appelle à préserver le peu qu'il reste de l'économie. 150 entreprises ont été pillées et incendiées dans la grande zone industrielle de Nouméa. Plus d'un millier de salariés sont sans emploi, selon la CCI. En Iran, les médias ont donc annoncé la mort du président de la République islamique il y a une demi-heure. Des débris de son hélicoptère ont été retrouvés sur le flanc d'une montagne dans le nord-ouest du pays. Ebrahim Raïsi, 63 ans, a été élu en 2021, ultra-conservateur, renforcé par les dernières législatives du mois de mars. Le peuple iranien ne doit pas s'inquiéter, il n'y aura pas de perturbation dans l'administration du pays, a dit il y a quelques heures le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei. Nous serons à Téhéran dans le journal de 7h.
Et à 7h50, interview-analyse avec un spécialiste du Moyen-Orient. Le journaliste Armin Arefi, grand reporter au Point. France Inter, il est 6h34, des primes pour les Jeux.
À la SNCF, les cheminots franciliens mettent la pression. Leur grève demain va très fortement perturber le trafic à la veille d'une séance de négociation avec leur direction. Un train sur cinq uniquement aux heures de pointe sur le RER D et la ligne R du Transilien. Deux trains sur cinq aux heures de pointe sur le RER C. La SNCF propose 50 euros bruts par jour travailler pendant les compétitions, c'est trop peu, disent les syndicats, comparé à ce qu'ont obtenu les agents de la RATP. Maxime Debs.
Force est de constater qu'on négocie plus vite à la RATP qu'à la SNCF, note Samantha, conductrice de RER sur la ligne D.
J'imagine que d'avoir des relations, ça aide pour peser dans les négociations.
Allusion à Jean Castex, le patron de la RATP, à qui l'on mettrait quand même beaucoup moins de bâtons dans les roues pour négocier qu'à Jean-Pierre Farandou à la SNCF. Béranger Cernon à la CGT Cheminot n'est pas loin de le penser.
Franchement, on se pose la question parce que quand on voit ce qui a été arraché par les agents de la RATP, on n'a pas entendu Bruno Le Maire nous donner son avis ou nous expliquer qu'il allait faire une syncope en voyant ce qui avait été signé, alors que pourtant on est sur des montants quand même qui sont pas, sont pas négligeables.
Avec des primes qui pourront monter, alors certes dans des cas exceptionnels, mais jusqu'à 2500 euros pour un conducteur de métro cet été à la RATP. 1000 euros bruts en moyenne négociés par agent mobilisé. Aucun mal, semble-t-il, côté RATP à sortir le chéquier. Ce qui fait dire à Sylvain, syndiqué Sud, conducteur de RER, là encore, que le patron de la SNCF n'est peut-être pas aussi bien aidé par l'actionnaire que son homologue du métro.
Il doit avoir un rôle de l'État dans l'histoire. Très clairement, c'est pas Jean-Pierre Farandou qui décide d'une prime JO tout seul. C'est faux.
Impression d'une négociation très encadrée, donc, que la grève finira peut-être enfin par déverrouiller.
Maxime Debs et autres grèves demain dans les aéroports parisiens. Les agents d'ADP demandent là aussi, entre autres, des primes homogènes pour les Jeux. C'est une maladie qui touche 3,5 millions de Français, souvent des fumeurs ou d'anciens fumeurs. La BPCO, bronchite chronique obstructive, est aussi la troisième cause de mortalité dans le monde. Le Dupixent du laboratoire français Sanofi va-t-il les aider ? Ce nouveau traitement pourrait arriver sur le marché d'ici la fin de l'année, Victor Delande, après deux essais cliniques concluants.
Ce traitement ne soigne pas la bronchite chronique, il permet de ralentir sa progression et surtout de soulager certains symptômes. Les patients qui en souffrent tous tout le temps éprouvent de grosses difficultés à respirer. Grâce au Dupixent, ces malades voient leur crise baisser. Benjamin Ferré, directeur médical du département immunologie chez Sanofi.
On a réduit la fréquence des exacerbations, ce sont des poussées, où les patients, pendant un moment donné, vont avoir une aggravation de leurs essoufflements, une aggravation des difficultés à respirer, une aggravation de l'ensemble de leurs symptômes. Et une partie d'entre eux vont avoir besoin d'être hospitalisés pour les aider à passer ce moment.
Selon deux études cliniques, le Dupixent réduit en effet de plus de 30% ces crises, un progrès considérable pour les patients. Et ce médicament pourrait être bientôt disponible, selon Audrey Dervelois, présidente de Sanofi France.
En France, il y a la possibilité, via l'accès précoce, de traiter les patients le temps qu'on fasse tout le process réglementaire classique. Et donc, on espère bien entendu que les patients français puissent en bénéficier le plus tôt possible. Et c'est notre engagement chez Sanofi, en tout cas, de faire tout pour que ça soit le cas.
Quant à l'autorisation de mise sur le marché, elle pourrait arriver vers la fin de l'année. Les patients, eux, pourraient être remboursés par l'assurance maladie dans la foulée.
Victor Delande, quelle saison pour les Brestois, troisième sur le podium de la Ligue 1 de football qui s'est achevée hier soir. Le club breton se voit donc qualifié pour sa première Coupe d'Europe, la plus prestigieuse, la Ligue des Champions. D'autres Bretons sont tristes. Ce matin, les joueurs de Lorient relégués en Ligue 2 avec Clermont. On retiendra aussi la remontada de Lyon, dernier du classement à la mi-saison. L'OL termine sixième et jouera la Ligue Europa. Sans eux, le cinéma serait terriblement aride. 30 compositeurs et compositrices de musique de films ont monté les marches du Festival de Cannes hier soir. Montée revendicative. Contrairement aux Oscars, Cannes ne décerne plus de prix aux bandes originales depuis les années 50. Alors parmi les musiciens présents sur le tapis rouge, il y avait la chanteuse Camille et son compagnon Clément Ducol. Ils signe la bande originale d'Emilia Pérez, thriller musical de Jacques Audiard, qui a fait sensation samedi sur la Croisette. Sébastien Sabiron les a suivis avant la montée des marches.
Des vocalises dans l'ascenseur, puis une déambulation pieds nus sur la Croisette avant d'enfiler ses escarpins pour monter les marches, un exercice auquel Camille se prête volontiers.
Maintenant, la montée des marches qui est aussi une montée sur talons. J'adore être pieds nus, mais là, c'est quand même joli. On se met beau, on est fiers de notre travail, on est en équipe. Moi, je le vois vraiment comme un rituel.
Camille qui signe paroles et musique d'Emilia Pérez, l'éblouissante comédie musicale de Jacques Audiard, 4 ans de travail aux côtés de son compagnon, le compositeur Clément Ducol.
Les chansons ont été construite en vue de faire vraiment avancer la narration. Pour nous, c'est une implication musicale assez géniale.
Et ce qui est bien avec Jacques, c'est qu'on essaye plein de choses. Dès qu'il y a une idée, on l'essaye. Et c'est fou fou comme la musique influence les scènes.
Avec des allers-retours permanents entre la mise en scène, l'image, la musique, la danse. Ça devient un paysage complet, quoi.
Une œuvre dans l'œuvre qui marque l'importance des bandes originales, catégorie curieusement oubliée à Cannes, regrette Camille.
Bah oui, il faudrait qu'il y ait un prix de la meilleure BO, évidemment. Que le travail des arrangeurs, des producteurs soit plus reconnu. Dans le cinéma, je pense que la musique a une influence folle. Je me dis même que ça raconte presque l'inconscient du film, la musique.
Et au-delà de cette montée des marches, la SACEM entretient le dialogue avec le festival pour qu'un prix de la meilleure musique de film soit un jour créé au sein du palmarès.
Sébastien Sabiron, aujourd'hui, Donald Trump débarque sur la croisette, interprété par Sébastien Stan dans The Apprentice d'Ali Abbasi, un biopic sur les jeunes années de l'ancien président. Et puis revoilà David Cronenberg, 81 ans, pour Les Linceuls avec Vincent Cassel et Diane Kruger.
C'était le journal de Florence Paracuelos.